Grand-mère ne danse pas. Elle semble raconter quelque chose. Elle marche lentement, elle se balance, elle est pensive et, par-dessus ses bras, jette des regards sur les assistants. Tout son grand corps s'agite, indécis. Ses pieds tâtent le sol avec précaution. Soudain, elle s'arrête, comme si quelqu'un l'avait effrayée. Son visage tressaille et se rembrunit. Puis il s'illumine aussitôt d'un bon sourire accueillant. Elle saute de côté, faisant place à quelqu'un qu'elle ne voit pas et qu'elle repousse de la main. Elle baisse la tête, elle s'immobilise, prête l'oreille et sourit toujours plus gaiement. Et soudain, elle s'envole, pareil à un tourbillon. Elle semble plus harmonieuse, mieux proportionnée. On dirait qu'elle a grandi. Nul ne peut détacher d'elle ses regards, tant elle est redevenue belle, impétueuse et séduisante, en ces instants où elle retourne miraculeusement à sa jeunesse. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le décidez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Elle tourbillonne réellement sous nos yeux cette grand-mère belle et séduisante. Elle brille à distance grâce aux mots déposés par son petit-fils, l'écrivain russe Maxime Gorki, dans un livre autobiographique paru en 1914 et intitulé « Ma vie d'enfant », dont je viens de lire un extrait en ouverture de cet épisode. Danse-t-elle comme elle rit, comme elle vit ? On l'imaginerait bien, elle aussi tournoyée, les yeux fermés, une main levée, l'autre sur une hanche, le corps répondant avec joie à quelques notes de musique. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à ce micro Noor Kadour, poétesse, romancière, peintre et aussi médecin. Bienvenue Noor et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci à toi Valentin.
Alors Noor, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Ma grand-mère maternelle s'appelait Aza et ma grand-mère paternelle s'appelait Fordin.
Alors on entend une intonation venue d'ailleurs, venue de loin. Là. Elles habitaient quel pays ? Elles sont nées dans quel pays ?
Elles sont toutes les deux syriennes. Elles habitaient ma grand-mère maternelle dans un petit village qui s'appelle Sarfita et ma grand-mère paternelle à Homs, qui est une ville un peu plus grande de Syrie.
Alors ces deux grand-mères, tu nous as dit leur prénom, mais toi comment tu les appelais ? C'était quoi leur surnom ?
Pour Aza, c'était Soto Aza. Soto en arabe, ça veut dire grand-mère. Et pour ma grand-mère paternelle, c'était Soto Fodda.
Donc il y avait juste le petit mot surnom, grand-mère devant. D'accord, très bien. Et donc ces deux grand-mères syriennes, quel lien dans ta vie tu as eu avec elles ? Quand est-ce que tu les voyais ?
Je partais tous les étés en Syrie. On passait avec mes sœurs et ma mère 2 mois d'été là-bas. Mon père nous rejoignait 1 mois plus tard parce qu'il travaillait. Et du coup, les souvenirs en fait, d'enfance que j'ai vraiment, c'est ces souvenirs estivaux auprès de ma famille en Syrie, auprès de ses grands-mères. On naviguait entre les deux villes justement pour rendre visite aux deux familles. Et à chaque fois, c'était des moments très conviviaux qu'on partageait ensemble, voilà, tous ensemble.
En tout cas, tu, pendant ces vacances d'été, tu logeais chez elles, chez les grands-mères ?
Oui, tout à fait. On logeait du coup à chaque fois chez nos grands-mères. Et c'est ça qui était beau, je trouve, parce qu'on pouvait vivre tout le déroulé de ces journées auprès d'elles. Pour grand-mère Aza, justement... peut-être que j'en parlerai plus tard, mais des marches matinales à 5h30 du matin où parfois j'avais la chance de l'accompagner jusqu'au coucher du soleil. Et pour ma grand-mère Fadda, c'était plutôt les veillées nocturnes. Donc c'est marrant parce que j'avais les deux rythmes différents, les veillées nocturnes à discuter dans le petit jardin. Voilà.
Oui, c'était pas seulement les visiter, leur rendre visite, c'était pendant 1 mois, 2 mois, vivre ensemble, vivre avec elles toute la journée durant.
Oui, exactement. Et c'est ça qui était beau, c'était d'être immergé auprès d'elles et d'être immergé aussi du coup auprès de la langue arabe, auprès de la culture, de tout ce qu'il y a aussi autour de la cuisine, de tout ça. Et finalement, c'est un très bel héritage que nos parents nous ont laissé à mes sœurs et moi, c'est d'avoir eu la chance de goûter à cette culture-là, parce qu'on est toutes nées en France avec mes sœurs. Et justement, c'était à chaque fois ce retour aux sources qui nous permettait d'être immergés dans cette culture qui, sinon, durant l'année, nous semblait assez lointaine.
Oui, la transition, la différence, comment tu la vivais, toi, entre ces deux espaces, il y avait beaucoup de différences.
Il y avait beaucoup de différences dans le quotidien, mais je pense aussi que c'était lié à quand on était en Syrie, on était vraiment en vacances aussi. Donc, à chaque fois, les souvenirs d'enfance sont mêlés à celles des vacances, sont mêlés à ceux des vacances.
Donc, il y a une forme de légèreté.
Voilà, exactement. Il y a une forme de légèreté et d'insouciance, alors qu'effectivement, durant l'année scolaire, on est plus dans un rythme quotidien, routinier. J'aimais beaucoup aussi mon rythme en France, mais c'est vrai que du coup le rythme en Syrie, j'avais hâte à chaque fois de retourner en Syrie, et en même temps quand il fallait partir, j'étais aussi heureuse quand même de rentrer en France.
Et tu parles la langue arabe dès que tu as été enfant, tu l'as apprise,
alors apparemment mes parents, moi je suis l'aînée du coup d'une fratrie, d'une sororité, comment on dit ?
Bonne question.
De trois sœurs. Et mes parents parlent arabe entre eux. Et apparemment, quand j'étais petite, ils me parlaient arabe. Et je suis arrivée le premier jour à l'école, justement en France, et je ne comprenais pas du tout ce que les autres enfants disaient. Et depuis ce jour-là, il a été décidé à la maison de parler en français aux enfants. Donc ça, c'est ce que mes parents m'ont raconté, mais on les entendait parler arabe à la maison, il y avait la télé qui était en arabe, on était quand même immergés dans la langue arabe, et après, effectivement, tous les étés, là, vraiment, on était complètement immergés dans cette langue.
Tu écris aussi en arabe ?
Non, j'écris pas en arabe parce que j'ai un niveau très faible niveau écriture, lecture en arabe. Mais par contre, j'aime beaucoup écouter des chansons en arabe. Voilà, j'aime beaucoup ça.
Elle chantait, tes grands-mères ?
Ma grand-mère, Aza, justement, elle fredonnait quelques chansons. Elle avait une très belle voix. C'était quelqu'un de vraiment très, très, très élégante, très gracieuse. Et elle avait un très beau visage, justement. Et elle fredonnait, oui, quelques chansons de Fayrouz. Et moi, après, c'est ça aussi qui m'a donné envie de découvrir ce que Fayrouz chantait et toute sa discographie par la suite.
Quand tu l'écoutes, tu revois un petit peu ta grand-mère
fredonner. Oui, complètement. Ouais, je revois ma grand-mère fredonner. Je l'imagine. C'est quelqu'un de très, je pense, de très sensible à ce qui l'entourait. Je repense là, justement, quand je la voyais fredonner, c'était, elle avait mis beaucoup de plantes sur le balcon, de plantes aromatiques, mais aussi des fleurs, et elle fredonnait en caressant ces plantes-là, ces fleurs-là, le soir, justement, en marchant sur le balcon, en fredonnant des chansons. Et c'est vrai que, du coup, j'ai ces images-là quand j'écoute Fayrouz, je pense à elle comme ça.
Elle avait un rapport très sensible à la nature, à tout ce qui l'entourait, un regard particulier.
Elle avait, pour moi, c'est une des plus grandes poétesses que j'ai pu connaître de ma vie, parce qu'elle avait justement cette âme poétique. Pour moi, la poésie n'est pas seulement dans les mots, mais c'est vraiment un état de vivre, d'être au monde. Et je pense que c'est vraiment elle qui m'a initiée à la poésie, même si on ne parlait pas de littérature ou quoi que ce soit. Mais dans sa façon d'être, dans sa façon de porter attention aux choses qui l'entouraient, à respecter ce qui l'entourait, et tout en justement apportant cette sensibilité particulière et en transmettant ça aussi. Pour moi, vraiment, je pense que c'est elle qui m'a initiée à la poésie. Quand on me demande d'où m'est venue la poésie, je pense que c'est elle pour moi le symbole, ouais, de la poésie.
Ouais, pour elle, c'est une poésie de gestes, d'attention, de soins, de douceur.
Oui, tout à fait. C'est vraiment là un souvenir qui me vient. C'était justement, mais tous les matins, elle allait marcher. Donc c'était son heure à elle où elle était juste avec elle-même et le monde. Le reste de la journée, elle était très occupée, soit dans les tâches ménagères, soit à être à la cuisine, à préparer des choses. Et en fait, ce moment-là, le matin, elle partait marcher à 5h, elle se levait à 5h du matin, et elle partait marcher donc de 5h30 jusqu'à 6h30 du matin, tous les matins, jusqu'à l'âge de 80 ans, je pense 82 ans même. Et c'était justement son moment d'intimité d'elle avec le monde qui l'entourait. Et moi, j'avais la chance parfois d'être conviée à...
Elle te tolérait dans cet instant-là.
Tout à fait. J'avais la chance justement d'être tolérée dans ces instants-là. Donc, elle venait me réveiller à 5 heures du matin l'été quand on était là. Parce qu'après aussi, si elle partait plus tard, il y avait du monde, il y avait la chaleur qui s'insinuait. Et on partait. Et donc, j'ai vraiment ce souvenir qui est ancré en moi, où elle venait me réveiller dans le lit en me disant « Allez, Nour, est-ce que tu ne veux pas aller marcher ?» Et puis, on descendait les escaliers de la maison, on ouvrait la porte. Et là, il y avait un jasmin qu'elle avait planté vraiment à l'entrée en fait, du bâtiment. Et déjà, elle me disait « Oh, regarde, sans comme le jasmin... se mêle à la nuit et on sentait le jasmin en sortant justement de la maison. Donc c'était vraiment l'entrée dans cette balade où il faisait encore nuit, c'est à 5h30 du matin, il faisait encore nuit. Et puis on allait marcher dans la ville qui était complètement silencieuse, en voyant le soleil qui se levait peu à peu, et elle me faisait porter attention aux choses, aux plantes qu'on pouvait rencontrer, aux oiseaux qu'on pouvait croiser sur nos chemins. Et après, la balade souvent se finissait dans le souk de la ville, où là, justement, c'était les commerçants qui commençaient à tout préparer, où là, on sentait le café, on sentait l'agitation qui commençait. Et c'était comme une sorte de transition pour pénétrer dans la journée. Voilà. Donc ça, c'est un des plus beaux souvenirs. Et elle m'a transmis aussi ça, cette idée de la marche contemplative. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ou en marchant quand je marche. Ou quand je nage, c'est une sorte de contemplation, et en même temps plein de choses qui viennent en tête, et je pense que c'est elle qui m'a transmis ça également. Ouais.
Merci Nour pour le récit de ce moment incroyable, la naissance du jour avec ta grand-mère, avant d'entrer pleinement dans la journée, dans le feu de la journée. Néanmoins, elle avait un rapport aussi à la littérature, à l'écriture, aux livres. Il y avait ça chez elle,
en plus
de ce regard poétique.
Chez mes grands-parents, il y avait beaucoup de livres. Mon grand-père était surtout friand de journaux. Donc, mon grand-père lisait le journal tous les matins. Et ma grand-mère lisait, nous donnait aussi des cours d'arabe tous les matins en Syrie. Donc, elle nous faisait apprendre dans les livres d'écoliers niveau CP, CE1, les cours d'arabe. C'était une ancienne, elle était enseignante, et elle-même aimait beaucoup lire des romans surtout. Mais c'est vrai que quand j'y repense, finalement, c'est pas quelque chose dont on a parlé étant enfant, mais j'ai effectivement cette image là où elle portait parfois un livre, où elle s'asseyait pour lire également.
Et donc elle était enseignante, c'est ça?
Elle était enseignante, oui, tout à fait.
Donc ça dit aussi quelque chose d'elle dans son rapport aux autres et ses objectifs de transmission.
Oui, complètement. C'était quelqu'un qui était tourné vers les autres, que ce soit sur le plan familial, comme nous on pouvait le voir, avec l'attention qu'elle portait aux gens, pour que les gens se sentent bien, pour que ses enfants se sentent bien, pour que nous nous sentions bien. L'attention qu'elle portait à mon grand-père aussi, et cette envie effectivement de transmettre tout ça, oui.
Et pendant les longs mois où vous restiez en France, hors été, avec cette grand-mère, il y avait un échange, des appels, une correspondance.
Et c'est ça qui est beau, c'est que justement, il n'y avait rien de tout ça. Et finalement, l'année passée et chaque été, on revenait comme si nous nous étions jamais quittés. Et pourtant, il n'y avait pas eu de correspondance ou quoi que ce soit entre nous, mais c'était comme si les choses en fait étaient présentes sans les nommer, sans en parler, et qu'elles étaient juste là simplement, sans forcément faire de concessions, de voilà, de choses comme ça.
Et puis il y a peut-être l'idée aussi que ces deux mois-là, elle est là à côté pleinement, on vit ensemble, et puis après si elle est pas à côté, tant pis, on fait autre chose, et il n'y a pas forcément besoin.
Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est peut-être aussi...
Je m'exprime mal l'idée, mais voilà.
Oui, j'ai compris. Moi, j'ai bien compris ce que tu veux dire.
Bon, tant mieux.
C'est peut-être ça aussi, c'est ce qui peut-être se rapproche aussi à l'état poétique, de vivre poétiquement les choses, c'est de vivre l'instant présent et porter attention à un instant donné, aux gens qui nous entourent, à ce qui nous entoure. Et oui, peut-être ça rejoint ça, tout à fait.
Et alors, l'autre grand-mère, Fada, qui elle était, à quoi elle ressemblait, elle, si tu pouvais nous la dessiner?
Alors, Fada, du coup, c'était ma grand-mère du côté paternel. Elle, c'était plutôt quelqu'un de sédentaire, qui n'aimait pas trop marcher ou bouger. Après, elle a enfanté 9 enfants quand même. Donc, je pense que physiquement aussi, c'était fatigant pour elle. Elle n'avait pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, c'était quelqu'un qui ne savait pas lire. Mais c'était quelqu'un justement avec qui on passait aussi de bons moments, parce que le soir, elle aimait beaucoup veiller, à discuter aussi de banalités, de choses comme ça. Et on était tous réunis avec mes oncles et tantes, vu que c'était une famille nombreuse, donc on était tous là à discuter de banalités aussi. Et ça aussi, ça donne quand même une saveur au fait que les choses, elles peuvent être belles, et tout simplement dans le partage finalement, juste d'être là ensemble et de vivre ensemble en fait.
Et donc chez elle, c'était des moments très collectifs, beaucoup de monde tout le temps, et puis à veiller tard.
Oui, exactement. C'est vrai que chez elle, c'était vraiment ça, à l'inverse plutôt de ce Toraza où c'était plutôt des instants assez solitaire, sauf au moment des repas où on se retrouvait tous à table, autour de la table, parce que les repas sont aussi signes de convivialité, de partage. J'avais deux grand-mères qui aimaient beaucoup cuisiner, qui cuisinaient très très bien. On revenait en France à chaque fois avec mes sœurs, avec 3-4 kilos.
C'est les moments préférés de cette émission, quand on commence à parler de recettes.
Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ces deux ambiances qui se dégageaient dans deux espaces différents.
Alors, parle-nous un petit peu des petits plats qu'elles faisaient toutes les deux. Est-ce qu'il y a des recettes comme ça qui restent dans ta mémoire ou que tu reproduis peut-être?
Alors, moi, mon plat préféré, c'est le taboulé syrien ou libanais. C'est le même avec beaucoup de persil. Ça, j'aime beaucoup ça parce que c'est très, très frais. Et elle faisait très, très bien.
Elle le faisait toutes les deux?
Juste ma grand-mère maternelle. Elle faisait aussi le kebbe, qui est très bon, qui est des sortes de boulettes de viande avec du blé concassé. Et une anecdote qui est très drôle aussi, c'est que ma grand-mère maternelle, c'est Toraza, faisait très, très bien le riz. Et une fois, elle nous avait surpris, ma seconde sœur Farah et moi, en train de manger du riz à 4 heures de l'après-midi au moment du goûter, par-dessus la marmite de riz, en train de manger son riz qu'elle avait laissé là, tout simplement refroidir.
Ouais, c'était un vol de riz, c'est encore meilleur.
C'était un vol de riz, et ce qui était drôle, c'est qu'elle n'était pas venue nous interrompre dans notre épopée de riz, mais elle était allée dire à ma mère que c'est quoi ces filles soi-disant françaises qui sont mal nourries, qui sont en train de manger du riz au goûter. Et ça, c'était très drôle, et voilà.
Comme quoi, avec les grand-mères, tout peut être sublimé, quoi. Même un simple riz devient magnifique.
Exactement, oui, tout à fait.
Et elles venaient en France aussi des fois, les deux grand-mères, c'est déjà arrivé?
Alors, ma grand-mère, c'est Toraza, est venue en France pour la naissance de ma petite sœur Jade, donc quand j'avais 8 ans. Donc là aussi, c'était des beaux souvenirs, parce que c'était quand ma mère était à la maternité et du coup, mes grands-parents étaient là avec nous à la maison. Donc, c'était des très bons moments parce qu'ils venaient nous chercher à l'école. On était fiers que nos grands-parents viennent nous chercher à l'école, alors que des fois, on y allait simplement à vélo ou à pied avec ma sœur. Et ma grand-mère paternelle est venue à ma naissance, mais moi, du coup, je ne m'en souviens pas du tout. Et après, elles ne sont pas revenues, non.
Et elles se connaissaient toutes les deux, elles s'appréciaient?
Oui, tout à fait, elles se connaissaient et elles s'appréciaient, oui, souvent, justement, quand on nous déposait d'une ville à l'autre, on passait un moment tous ensemble, soit déjeuner ensemble, soit prendre un café ensemble. Donc c'était quelque chose aussi un peu de rituel à ce moment-là, de tous se retrouver.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à la Syrie, il y a aussi une charge historique, politique. Comment cette histoire du pays s'est mêlée un peu à l'histoire de la famille à un moment donné? Alors est-ce que, enfant, tu avais conscience de certaines choses? Comment tout ça s'est entremêlé, si c'est le cas?
Enfant, justement, je n'avais pas du tout conscience de tout ça. C'est en grandissant au fur et à mesure, surtout quand après je suis devenue adolescente et un peu plus tard, où j'ai remarqué qu'il y avait des sujets sur lesquels on ne pouvait pas parler, effectivement, notamment de politique, on ne pouvait pas parler ouvertement. Après, sinon, honnêtement, je n'ai jamais senti ce poids-là politique quand j'étais là-bas. Le seul moment où vraiment je l'ai remarqué, c'est ensuite à cause de la guerre, parce que j'y allais vraiment tous les ans. Après, effectivement, en grandissant, j'avais d'autres engagements, donc mes séjours s'écourtaient, mais j'essayais d'y aller quand même une fois par an. Donc après, c'était plutôt en septembre, pendant une ou deux semaines, des choses comme ça. Et après, de 2014 à 2021, à cause de la guerre, je n'ai pas pu y retourner. Et quand j'y suis retournée, j'ai vu à quel point le pays, justement, avait changé, les gens avaient changé, le quotidien des gens avait changé. Et c'était ce qui m'avait amené à écrire mon premier recueil de poèmes qui s'appelle « L'arme de lune » que j'avais écrit justement en Syrie.
C'est vraiment un recueil inspiré de ton retour dans le pays et de certaines constatations.
Oui, tout à fait. C'est baigné à la fois de ça, d'une certaine colère aussi envers la violence, la brutalité que crée la guerre. La violence qu'il peut y avoir entre les hommes et notamment la violence politique, parce qu'à chaque fois, c'est le peuple qui en pâtit tout ce qui se passe. Et donc, il y a des poèmes mêlés de cette colère-là et à la fois un hommage à certaines villes, justement, que j'ai pu connaître et que j'ai vues détruites, comme une partie de la ville de Homs, où il y avait certaines parties de la ville où on allait se balader le soir qui, après, avaient été complètement détruites. Et donc c'est un recueil qui mêle à la fois une sorte de révolte, mais aussi de nostalgie, de mélancolie, et en même temps une sorte d'espoir pour l'avenir, pour ce peuple qui est très résilient et qui a en lui justement cette joie de vivre malgré tout, et qui, je pense, peut réussir du coup à se relever à la moindre épreuve.
Tu y es retournée récemment, là, en 2024 ou 2025
La dernière fois que j'y suis retournée, c'était en 2023. Et après, en fait, mes deux grands-mères sont décédées. Et c'est vrai que c'était assez difficile pour moi d'y retourner, justement, d'avoir perdu pas mal de proches. Je suis encore tiraillée par l'idée de me dire est-ce que j'y retourne ou est-ce que je garde un peu en tête ces beaux souvenirs-là, parce que j'ai peur d'y retourner et d'être un peu en prise par une sorte de choc. Et voilà, du coup, c'est en pleine réflexion, mais je ne suis pas retournée depuis 2023.
Et tes grands-mères, comment elles existent aujourd'hui? Quelles traces elles ont laissées en toi? Alors, tu nous as parlé d'une trace très forte, hein, de l'une d'entre elles, de un peu la naissance de la poésie en toi, d'un regard poétique. Mais ouais, comment elles vivent avec toi aujourd'hui?
C'est toi, Aza. Elle vit avec moi dans les marches à chaque fois que je vais faire. À chaque fois, j'ai une pensée pour elle, dans le jasmin, dans l'odeur du jasmin que j'aime beaucoup. À chaque fois, oui, quand je sens le jasmin, je pense à elle. Dans ce regard poétique des choses aussi, dans cet émerveillement perpétuel des choses qui nous entourent. Elle vit surtout comme ça avec moi. Et cette Tofoda aussi, elle vit dans justement cette convivialité. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi recevoir à la maison, inviter beaucoup d'amis qui ne se connaissent pas, créer du lien. Et je pense que ça aussi, ça vient de ce côté-là, de cette volonté de réunir en fait les gens entre eux.
Quand tu parles de Aza, on a l'impression que ce regard poétique, elle allait le chercher aussi en créant des espaces un peu inédits pour aller chercher des choses. Ça aussi, c'est peut-être une leçon à retenir. Se lever à 5 heures, c'est aussi aller voir un moment de la journée un petit peu inédit, délaissé et qui peut nous révéler des choses.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Oui, tu as raison. C'est aussi ça, c'est tenter de créer dans son quotidien des espaces pour ça, parce qu'effectivement, sinon, on se laisse vite taper par le quotidien, par le temps qui file dans une société où vraiment qui est que pour la productivité, pour le temps. C'est aussi une sorte d'engagement, je pense, que de prendre le temps d'apprécier les choses, de prendre le temps d'apporter attention aux choses. Et effectivement, je pense que c'est elle qui m'a transmis ça aussi.
Est-ce qu'elles t'inspirent directement dans tes écrits, dans tes projets d'écriture? Elles existent aussi à l'intérieur de tes textes?
Ma grand-mère, Sotou Azza, oui, elle existe beaucoup dans les textes que j'ai écrits. Mon premier roman, L'âme du luthier, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui vit en Syrie, dont le père est luthier. Et le père veut qu'il reprenne l'atelier de luthier, sauf que lui rêve de devenir écrivain en France. Donc on suit ce jeune garçon depuis son enfance en Syrie jusqu'à son arrivée en France. Il y a beaucoup de passages du coup dans ce roman qui sont inspirés de passages que j'ai pu vivre avec mes grands-parents. Et aussi le premier recueil de poèmes, Larmes de lune, que j'ai dédié à mes grands-parents, justement, qui est né en fait à leur côté quand j'étais en Syrie. Et la mémoire, c'est quelque chose qui m'interroge énormément, qui habite beaucoup mes écrits, tout ce qui est la mémoire, la mémoire transgénérationnelle. Dans Le bleu de la mer s'est enfui aussi, c'est l'histoire d'une femme qui raconte son histoire à travers les organes du corps qui la composent. Et on voit comment le corps aussi a une mémoire qui lui est propre et pas seulement cérébrale. Et comment justement cette mémoire est transmise aux générations suivantes. Donc ce sont des thématiques qui m'intéressent beaucoup et que je tente d'explorer en littérature.
Oui, transmise ou pas transmise, et c'est des traces à chaque fois quand même. Et tes grand-mères, elles t'ont parlé aussi de tes arrière-grand-mères, des êtres humains avant, ou du reste de la famille? Il y avait un partage de mémoire autour de ça.
Mais ma grand-mère...
Tu as peut-être connu tes arrière-grand-mères?
Non, je n'ai pas connu mes arrière-grand-mères, parce que justement, c'est toi, Aza, sa mère est décédée jeune, donc elle s'est retrouvée à l'âge de 15 ans toute seule, en fait, avec son père qui a épousé rapidement une nouvelle personne. Donc elle me parlait de ça, elle me parlait surtout de comment elle a été finalement... Elle était l'aînée et qu'elle a adopté un rôle de mère plutôt que prévu. Et du côté de ma grand-mère paternelle, Fadda, non, on n'en a jamais vraiment parlé.
Alors Nour, c'est passé très vite, il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Un grand merci d'être venu partager tout ça avec Albertine.
Mais merci à toi pour cette invitation, ce projet qui me tient vraiment à cœur et je te remercie pour ça.
Merci beaucoup pour ces mots et merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine et on termine l'émission en littérature avec un texte écrit pour l'occasion et lu par Nour Kadour.
À la tombée de la nuit, je me précipitais dans la chambre de mes grands-parents pour le rituel du soir. Je m'installais sur le lit, à plat ventre, face à la coiffeuse aux teintes grises où mamie avait pris place. Des colliers colorés suspendus encadraient le miroir central. Le reflet doux de grand-mère apparaissait, le visage baigné d'une lune titubante ornée de ridules d'étoiles. J'aimais comme elle rapprochait sa crème Nivea tout en fredonnant une chanson de Férouz. Le poème se déployait alors sous mes yeux enfantins. Elle ouvrait délicatement la boîte et un bouquet de printemps baigné des cotons du soir germait dans mes poumons. Elle cueillait la crème du bout de ses doigts, branches, avant de l'étaler lentement sur l'écorce de sa peau. Mamie fermait les yeux tandis que cette nouvelle saison couronnait ses traits. Le monde peuplait son visage. Il me semblait voir la buée de l'aube étendue sur ses joues. Ses lèvres s'ourlaient d'une respiration mêlée à la poitrine d'un zéphyr. C'était comme si chaque objet de cette pièce avait rejoint ce grand navire flottant sur les gestes de mamie. Le lit tangué sur son sourire, la lampe de chevet dansait sur ses notes musicales fredonnées, les parfums s'entrechoquaient à ses marées épurées de douceur. Je ne détournais jamais le regard, comme pour absorber sur chaque parcelle de mes pupilles cet instant béni à jamais. Je devenais religieuse du poème de mamie qui éclatait sous mes yeux. J'ai toujours cru que le secret de son si beau visage était lié à cette crème. Mais je compris plus tard. En réalité, le poème que vivait grand-mère était toute là, source de sa grâce.